9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le Premier ministre Jean Castex nous ayant annoncé un confinement renforcé pour la fin de l'année et Gérald Darmanin s'étant dépêché de nous promettre plus de 100 000 policiers et gendarmes mobilisés le soir du Nouvel An rien que pour nous faire rester chez nous, j'ai invité ce matin l'épidémiologiste Catherine Hill. Depuis le début de l'épidémie, ses prévisions se sont toujours révélées exactes. Peut-être parviendra-t-elle à nous expliquer ce qui nous arrive. Il y aura également Slim Benachour. Les syndicats de police ont fait toute cette semaine la grève des contrôles d'identité. Ça tombe bien, ça fait des années que cet avocat répète que ces contrôles d'identité préventifs sont inutiles et dangereux et qu'il faut les supprimer totalement. Enfin, je recevrai Nathanaël Karmitz, le président des cinémas MK2. Il a appris jeudi, comme tout le monde, que ces salles n'allaient pas rouvrir avant le mois de janvier. On va voir s'il prend cela avec philosophie et ce que cela implique pour le cinéma français. Bonjour Catherine Hill, vous êtes épidémiologiste, biostatisticienne, vous avez travaillé à l'INSERM, à Harvard, à l'Institut Gustave Roussy. Dès le mois de mars, vous aviez estimé que le coronavirus allait faire 64 000 morts en France, nous nous en approchons. Au mois de mai, au moment du déconfinement, vous alertiez déjà sur la deuxième vague, expliquant que l'épidémie n'était pas du tout contrôlée comme en Corée du Sud et que le virus continuait de circuler. Et plus récemment, vous étiez certaine que l'on n'arriverait pas aux 5 000 cas par jour espérés par le gouvernement pour le 15 décembre. Alors pour vous, toute la gestion de cette crise sanitaire est-elle erronée depuis le début ?
Oui, en gros oui. En fait, on a l'impression que les autorités n'ont pas compris les caractéristiques fondamentales de ce virus et de la contamination. En réalité, ce virus a deux propriétés particulières. D'abord, il circule à travers des porteurs asymptomatiques, des gens qui n'ont pas de symptômes et qui sont contagieux. Donc, on ne peut pas les distinguer à moins de les tester par hasard. Et la deuxième propriété, c'est que tout va très vite avec ce virus. Les gens sont contaminés un jour. S'ils doivent avoir des symptômes, ils ont des symptômes autour du cinquième jour. Et au bout de 10 ou 12 jours, ils sont plus contagieux. Donc, le système français en vigueur consiste à chercher les gens qui sont symptomatiques, donc ça fait déjà 5 jours qu'ils contaminent autour d'eux quand ils ont un premier symptôme. On les teste en ce moment entre 2 et 3 jours après les symptômes, donc ça fait déjà 7 ou 8 jours qu'ils sont contagieux, et on leur donne les résultats du test encore un jour après, donc ça fait 8 ou 9 jours qu'ils sont contagieux quand on découvre qu'ils sont contagieux, et ils sont d'ailleurs au bout, à la fin de leur période de contagion. Donc c'est trop tard pour les isoler, ça ne sert plus à grand-chose. On recherche leurs contacts, mais s'ils ont contaminé quelqu'un 6 ou 7 jours avant qu'on découvre qu'ils sont contagieux, ces contacts sont eux-mêmes déjà contagieux. Donc le virus continue à circuler dans le pays.
Aujourd'hui, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est qu'on regarde le nombre des contaminations, qui est certes important, hein, près de 14 000 par jour, ce qui nous vaut les mesures annoncées par Jean Castex. Mais le nombre de malades hospitalisés, lui, est toujours en baisse. Pareil en réanimation, où ils sont moins de 3 000. Est-ce que ça n'est pas ces deux derniers chiffres qu'il faudrait regarder ? Quelle importance que beaucoup de gens soient contaminés s'ils sont de moins en moins nombreux à aller à l'hôpital ?
Alors, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux à aller à l'hôpital. Les admissions... une épidémie, c'est un phénomène dynamique. Donc, il ne faut pas s'occuper de combien il y a de gens en ce moment en réanimation. Le bon indicateur, c'est combien de gens arrivent tous les jours en réanimation. Et c'est pareil pour les hospitalisations. Combien de gens arrivent tous les jours à l'hôpital ? Et ensuite, vous avez commencé votre exposé en parlant des gens qu'on trouve, les cas qu'on diagnostique chaque jour. Mais il faut bien comprendre que les cas qu'on trouve chaque jour, c'est une toute petite partie des cas.
Vous parlez des contaminés, là. Hein ?
Les contaminés.
Oui, oui.
Il y en a énormément plus. Pour s'en convaincre, on peut penser, l'Institut Pasteur a dit il n'y a pas longtemps, que 10% de la population avait été contaminée. En ce moment, en France métropolitaine, ça fait 6 500 000 personnes. Et combien de cas on a trouvé jusqu'ici ? 2 300 000 ou quelque chose comme ça. Donc, les cas qu'on trouve, c'est probablement un tiers ou un quart des cas. C'est comme ça que le virus circule. Donc, le nombre de cas et avoir comme objectif de n'en trouver que 5000, ça serait très facile. Il suffirait d'arrêter de tester et on en trouverait moins de 5000. Justement, on fait plus de tests avec les tests antigéniques. Donc, de toute façon, c'est un très mauvais indicateur, le nombre de cas qu'on trouve.
C'est pour ça qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas davantage le nombre de malades hospitalisés et le nombre de malades en réanimation. C'est là que c'est important, au fond.
Voilà, exactement. Et je les regarde. Je regarde les trois indicateurs qui sont combien de gens arrivent à l'hôpital chaque jour, combien de gens passent en réanimation chaque jour et combien de gens meurent chaque jour. Et ces trois indicateurs sont passés par un pic début novembre, sont redescendus, mais sont en train de commencer à remonter. Ça ne redescend plus, ça réaugmente. Donc c'est ça qui est inquiétant. Et avec les fêtes de Noël, et toutes les agitations, les vacances, les gens qui vont se déplacer, ça ne va pas s'arranger.
Voilà, on a l'impression qu'au fond, c'est l'exemple des États-Unis et du Canada où l'épidémie a rebondi après les fêtes de Thanksgiving qui font dire que si les fêtes de Noël et du Nouvel An s'étaient passées normalement, on risquait d'aller vers une épidémie encore aggravée.
Bien sûr, mais comme les fêtes de Noël vont quand même exister, les gens vont un peu bouger. On va avoir le même phénomène que le phénomène observé aux États-Unis et au Canada pour Thanksgiving. C'est absolument certain. Donc, on est passé de 600 morts par jour à 400 morts par jour, mais c'est encore énormément. Et ça va réaugmenter. Donc, la situation est tout à fait mauvaise.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Tester toute la population, comme en Slovaquie ? Enfin, nous, on est beaucoup plus nombreux, il faudrait au moins 600 000 personnes pour arriver à quelque chose. Il faudrait analyser les eaux usées. On verrait qu'à certains endroits, peut-être, il n'y a pas de cas.
Pour l'instant, il y a à peu près du virus partout, puisqu'on l'a laissé circuler depuis le début. Donc, oui, il faudrait tester massivement la population. Mais si les Slovaques y sont arrivés, on est peut-être... On se voit plus que les Slovaques, mais on se voit plus de médecins, de gendarmes, de pompiers, d'infirmières, etc., etc., de personnel des collectivités locales et tout. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver si on décidait que c'était ça qu'on voulait faire. Il faudrait, si on décide de faire un dépistage. Le problème, c'est qu'il faut trouver les gens. Au lieu de confiner la population entière, il faut isoler les gens qui sont contagieux. Une maladie contagieuse, c'est simple. Il y a des gens qui sont contagieux, probablement 1% de la population en ce moment, ou 1 ou 2% qui sont contagieux, on les isole pendant 10 jours et on contrôle l'épidémie. Mais il faut les trouver, il faut les chercher, il faut trouver un système relativement simple. Et avec tout un groupe de scientifiques, nous avons bien réfléchi à la question, nous pensons qu'il faut faire des prélèvements salivaires, parce que c'est beaucoup plus facile que le prélèvement nasopharyngé qui demande un professionnel de santé équipé pour ne pas se contaminer lui-même, alors que cracher dans un tube en plastique, tout le monde peut le faire. Vous crachez dans votre tube en plastique, vous mettez une étiquette et ensuite on la porte dans un autre sachet, on le remet dans un autre sac en plastique pour qu'il ne soit pas contaminant lui-même. Et ensuite on fait des tests PCR groupés en regroupant les prélèvements par 10 ou par 20 ou par 5 pour aller plus vite avec la PCR qui est un peu chère et un peu compliquée à faire.
Je vous interromps, Catherine Hill.
Les gens positifs, on les isole.
Voilà. Je vous interromps, Catherine Hill. On fait une pause, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Catherine Hill, est-ce que l'analyse des eaux usées, ça pourrait être utile ?
Oui, bien sûr, mais ça peut servir d'indicateur. C'est la version ultime des tests groupés. Si vous analysez les eaux usées à la sortie d'une EHPAD, s'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a personne dans l'EHPAD qui porteur du virus. En fait, après ça, on m'a fait remarquer que certaines personnes âgées avaient des protections et donc n'utilisaient pas les toilettes de l'établissement. Donc ça peut être un problème. Mais en fait, le virus arrive dans les EHPAD par le personnel ou par les visiteurs. Donc ça marchera quand même.
Et comment faire pour que le virus cesse de circuler ? Il a continué de circuler pendant le premier confinement, vous l'avez dit vous-même à l'époque, il continuera de circuler en dépit du couvre-feu de 20h à 6h du matin.
Mais regardez comment les pays qui ont contrôlé l'épidémie, comment les Chinois ont fait. Quand il y a eu une résurgence de l'épidémie à Pékin, cette résurgence a été détectée parce qu'il y a eu un cas un jour, 6 cas le lendemain et 35 cas le surlendemain. À ce moment-là, ils ont décidé de confiner une partie de la population, tout un énorme quartier. Pékin, c'est 22 millions d'habitants. Et ils ont fait 2 300 000 tests en 10 jours. Et pendant ces 10 jours, sur ces 2 300 000 tests, il y avait 225 positifs. Donc ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin. Et ils les ont trouvés. Ils ont continué encore pendant quelques semaines. Et en 4 semaines, ils étaient retournés à l'état précédent qui était 0 cas à peu près tous les jours et de temps en temps, 1 ou 2 cas.
Mais pour ça, il faut isoler les malades.
Il faut confiner pour tester. Il faut tester massivement. Et il faut isoler tous les gens qui sont contagieux. Au lieu d'isoler tout le monde par le confinement, on isole les gens qui sont contagieux. Mais le virus va très vite, donc il faut aller vite.
Aucune étude à grande échelle sur les lieux de contamination n'est encore parue en France. Celle du professeur Arnaud Fontanet va sortir ces jours-ci. Elle porte sur 80 000 personnes contaminées. On aurait dû le faire plus tôt, à votre avis ?
Mais non, parce que ça, c'est très intéressant d'un point de vue cognitif. Mais les gens se contaminent. Peu importe, le virus circule, il faut trouver ceux qui sont positifs. Où est-ce qu'on se contamine ? On s'est braqué sur les foyers qui étaient 3 cas en moins de 7 jours dans un endroit ayant un lien entre eux. Donc évidemment, c'est facile de faire le lien dans les familles et dans les entreprises, mais si c'est dans le métro, on ne peut pas faire le lien. Donc cette histoire de foyer était une fausse piste énorme. Donc on peut faire une étude pour voir si les gens se contaminent plus dans les bars que dans les supermarchés, mais en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas comme ça qu'on va contrôler l'épidémie. On va contrôler l'épidémie en trouvant les gens qui sont contagieux et en les isolant.
Les Anglais ont commencé à se faire vacciner, les Américains vont commencer bientôt, ce sont un peu nos cobayes, nous commencerons au mois de janvier, ça va durer jusqu'en juin. Les Suisses préfèrent attendre 6 mois, est-ce que nous sommes les cobayes des Suisses ?
On n'aura pas besoin d'être les cobayes des Suisses, les Anglais vont faire ça très très bien. Voilà, effectivement, on a vacciné 20 000 personnes avec ce vaccin Pfizer, qui a l'air très efficace. On a bien vu, on voit bien les effets indésirables qui n'ont pas l'air graves pour l'instant. Et on a un peu de fièvre, mal à la tête, des douleurs articulaires, etc. Le vaccin est très efficace. Je pense que c'est un bon vaccin. Mais effectivement, on est content de savoir que les Anglais ont vacciné 2 personnes, du personnel hospitalier qui étaient très allergiques et qui ont très mal vécu le vaccin. C'est une information très utile. On l'aurait eu en France si on avait commencé à vacciner avant les Anglais, mais il se trouve que les Anglais commencent avant nous. Voilà, on va surveiller tout ça de près.
Catherine Hill, vous aviez estimé que le coronavirus allait faire 64 000 morts en France. Dès le mois de mars, vous étiez tombée sur ce chiffre. Comment l'aviez-vous trouvé ? Ça représente 1% de la population, c'est ça ?
Non, ce n'était pas ça le calcul. C'était une sorte de rétro-calcul avec les cas qu'on connaissait, les nombres de morts qu'on avait sur le moment. Enfin, c'était une espèce d'arithmétique un peu tordue. C'était très à la louche et ça supposait une mortalité beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est en réalité. Donc c'était certainement une surestimation au moment où je l'ai fait. Mais malheureusement, avec la seconde vague, je vais finir par avoir eu raison.
Aujourd'hui, on parle de troisième vague. Est-ce que ça a de l'importance, ça aussi, première vague, deuxième vague, troisième vague ? À partir du moment où vous dites que le virus continue de circuler, peut-on parler de vague ?
Ah oui, parce que si vous regardez le graphique des morts ou le graphique des hospitalisations ou des admissions en réanimation, vous voyez bien qu'on a eu un pic en avril et ensuite qu'on a un pic en novembre. Et on aura un nouveau pic. Mais on n'est pas redescendu du tout au niveau de juillet-août. Donc, oui, ça va remonter.
Merci Catherine Hill d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. On parle des contrôles d'identité avec l'avocat Slim Benachour.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Emmanuel Macron ayant déclaré lors de son interview à Brut, le média en ligne, qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Les syndicats de police sont appelés à faire la grève des contrôles d'identité en attendant que le président de la République revienne sur ses propos. Et c'est ce qui s'est passé toute cette semaine, un peu partout en France. Non seulement les policiers ont fait la grève des contrôles d'identité, mais ils ont parfois remis des attestations de non-contrôle d'identité aux passants, ou bien ils ont contrôlé tous les automobilistes, comme à Melun ou à Villeparisis, créant d'énormes embouteillages. Alors, Slim Benachour, bonjour. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris et vous êtes un pionnier de la lutte contre les contrôles d'identité. La déclaration d'Emmanuel Macron et la réaction des policiers ont dû l'une et l'autre vous réjouir.
Oui, tout à fait. Bonjour, tout d'abord. Oui, parce que l'évidence sociale, l'évidence des faits a été reconnue et par le président de la République et de façon un peu confuse par les policiers et leurs représentants.
Vous dites depuis le début qu'il ne faut pas se contenter de dénoncer les contrôles aux faciès, ni demander, comme l'avait fait François Hollande pendant sa campagne, que l'on délivre des récépissés. Il était revenu en arrière après. Il faut carrément les supprimer, ces contrôles d'identité.
Ben, oui, les contrôles d'identité. Alors, une précision, les contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, c'est quoi ? C'est ce qu'appellent les policiers les contrôles de routine. C'est-à-dire, c'est un contrôle que la majorité d'entre nous ne subit jamais. Ces contrôles de routine, d'après les statistiques, les scientifiques, ce sont des contrôles aux faciès. C'est-à-dire que ce sont pratiquement toujours les mêmes qui sont contrôlés. C'est le CNRS, c'est le Défenseur des droits, je ne vais pas citer toutes les institutions. Et le contrôle d'identité, en réalité, c'est rarement qu'un contrôle d'identité. Quelquefois, ça n'est pas du tout un contrôle d'identité, c'est un package. Le contrôle d'identité, on vous arrête, on vous demande votre identité, mais c'est aussi des palpations, des fouilles, quelquefois des commentaires, des observations, qui peuvent être homophobes, qui peuvent être racistes. Ça, c'est le package du contrôle d'identité qui, vous le voyez, recouvre d'autres réalités. C'est une pratique qui ne correspond pas à la loi, c'est pratiquement une pratique délinquante, une pratique interdite par la loi.
Alors, ce qui est permis par la loi, un policier a le droit de vous demander vos papiers de manière préventive. Hein. C'est sans raison particulière. C'est même une spécificité française, une survivance de la monarchie et de l'Empire dans la plupart des pays voisins. Il faut qu'il y ait eu un crime ou un délit commis dans les parages, un attentat ou un enlèvement. Bref, une procédure judiciaire ou des circonstances exceptionnelles. Nous, non. Un policier peut nous demander nos papiers quand il en a envie.
Vous l'avez parfaitement résumé. Alors, oui, c'est dans la loi, vous avez raison. Simplement, ça n'est pas légal au sens où il y a une norme supérieure qui dit que c'est interdit et parce que ce comportement que les policiers et même que les citoyens ou la population considèrent comme légal est en contravention avec le principe d'égalité et de non-discrimination.
Oui, parce que forcément, ça fabrique forcément de la discrimination. Parce que pourquoi vous demandez ces papiers à l'un et pas à l'autre ? C'est forcément discriminant. D'ailleurs, le Défenseur des droits en 2017 avait reconnu qu'il y avait davantage de contrôles chez les hommes. Les femmes, ça leur arrive quasiment jamais. Même dans les cités de banlieue, hein, les femmes ne sont pas contrôlées. Mmh. C'est chez les jeunes, hein, rarement chez les personnes plus âgées, et chez les personnes perçues comme noires ou arabes.
Tout à fait. Il s'agit de quelques centaines de milliers de personnes qui concentrent, d'après les autorités en 2016, 10 à 14 millions de contrôles d'identité par an. Donc vous avez une idée par l'articulation des chiffres du nombre de contrôles réalisés sur des jeunes.
Et ça peut être plusieurs fois par jour. Hein.
Oui, et des jeunes mineurs. C'est une pratique qui est, quand on s'y intéresse, c'est pour ça que c'est bizarre que je sois considéré comme un pionnier, parce que c'est une pratique idiote, qui est inefficace, inutile, dangereuse. Inefficace parce que au plus haut niveau de la police nationale, on sait que c'est une pratique qui ne permet pas d'obtenir des résultats. Hein, il y a des études qui ont été faites du côté du Val-d'Oise et de Montpellier. 4% des contrôles donnent quelque chose. Et dans ces 4 contrôles, vous avez la fameuse outrage et rébellion. Oui. L'une des infractions qui a été reprochée à Michel Ziegler. Donc c'est en gros le contrôle d'identité qui produit une infraction.
Mais attendez, 4% seulement donnent des poursuites. C'est-à-dire qu'en fait, dans 96% des cas...
Rien du tout.
Rien du tout, on a contrôlé les gens parce qu'il faut...
Rapprocher ça à 10 à 14 millions de contrôles. C'est donc inefficace, c'est inutile, 10 à 14 millions, c'est dangereux. Rappelons-nous quand même de Ziad Ebouna qui souhaitait éviter un contrôle d'identité. Ça peut être dangereux pour les policiers, on le sait aussi. C'est coûteux pour la communauté nationale.
Parce que pendant ce temps-là, ils ne font pas autre chose, vous voulez dire ?
Oui, il y a quand même d'autres infractions, je pense, notamment à la façon dont on vit la ville ou l'espace public quand on est une femme. Hein, je pense qu'il y a vraiment d'autres comportements à poursuivre, et puis c'est très très coûteux, voilà.
Mais on le voit bien là avec. Mais c'est bizarre de la part des policiers. On se dit pourquoi font-ils la grève des contrôles d'identité ? C'est parce qu'eux-mêmes savent que ça ne sert à rien, au fond. Est-ce que ça n'est pas une démonstration qu'ils sont en train de faire ? Regardez, ça ne sert à rien. Et si on le faisait, c'est-à-dire systématiquement à tout le monde, ça créerait des embouteillages. Enfin, ce serait absolument invivable.
Merci de me relancer sur ce point, parce qu'effectivement, je ne suis pas psychanalyste, mais de remettre, visiblement, ça a été le cas, des récépissés de non-contrôle aux faciès, visiblement au Rincy et à Aubervilliers. Bon, écoutez, pour moins de ça, moi, je me mets sur un divan.
Pourquoi ? C'est-à-dire que vous reconnaissez-le. Mais il montre l'inanité de l'État.
Par l'absurde, il nous montre que, il remet un récépissé de contrôle. Jusqu'à ce jour-là, les policiers refusaient de remettre des récépissés de contrôle. Là, parce que le président de la République leur rappelle l'évidence, ils ont l'énergie et le temps de remettre des récépissés de contrôle. Non, faciès, alors qu'ils visent des personnes qui sont visiblement des personnes que les études constatent comme étant les personnes qui font l'objet de contrôle.
On fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Slim Benachour, d'après ce que vous dites, les contrôles d'identité sont la porte ouverte à tous les abus et à tous les dangers, puisque les bavures, en général, commencent par un contrôle d'identité. Vous-même, vous avez fait condamner l'État français en 2016 par la Cour de cassation pour des contrôles au faciès. Beaucoup de gens savent tout ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent abolir ces contrôles d'identité. Pourquoi est-ce qu'il y en a toujours en France ? On est le seul pays.
Bon, je pense que
parle des contrôles d'identité préventifs, hein, bien entendu, c'est-à-dire sans raison. Il ne s'est rien passé autour, on vous contrôle comme ça, arbitrairement.
Oh, là, vous touchez à la problématique de la culture et des croyances. Les policiers pensent qu'en contrôlant, ils peuvent trouver quelque chose. Et puis s'ils ne trouvent rien, eh bien, ils signifient à une certaine population qu'ils sont là, qu'ils sont sous le contrôle. Donc ça, c'est, je dirais, les vrais objectifs qui ne correspondent absolument pas aux règles posées par l'état de droit et la vie en démocratie, parce que ça remet en cause, bien évidemment, de nombreuses libertés, la liberté d'aller et venir, sa vie privée, parce que vous êtes fouillé, vous êtes palpé, vous avez, bien évidemment, quand vous êtes jeune, parce que les contrôles sont très souvent opérés sur des mineurs, ça vous impose un rapport qui, il faut le dire, crée au mieux de la méfiance à l'égard des autorités, pas simplement des autorités des forces de l'ordre, mais même de la défiance. Ça a un impact aussi, il faut le dire, sur les policiers. On l'entend de plus en plus, la représentation syndicale est débordée, et vous avez de plus en plus de policiers qui expriment leur mal-être, l'absence de sens à leur travail. Hein, il faut rappeler que la mission, quand même, de la police, et on doit revenir à la Révolution française, avec ce magnifique texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que, bien évidemment, la police doit constater les infractions et poursuivre leur auteur, mais elle dit également et surtout que la police contribue, fait en sorte, garantit nos droits fondamentaux. Et là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Elles font partie du problème. Donc ça a une perte de sens pour les policiers. Ça remet aussi en cause la crédibilité des autorités. Hein, on le voit bien jusqu'à la semaine dernière, les autorités niaient les violences policières et niaient les contrôles aux faciès. Aujourd'hui, les autorités sont obligées de constater la vérité, la réalité sociale, et on voit bien, et là on touche, je dirais, à votre travail, aux médias. Les contrôles aux faciès, ça ne pose pas de problème aux autorités et aux policiers quand elles n'existent pas, c'est-à-dire quand elles n'existent pas médiatiquement.
Quand on n'en parle pas.
Quand elles sont révélées, effectivement, tout le monde a un problème. Et puis enfin, je ramènerai tous ces impacts sur les policiers, les jeunes, les autorités. C'est un impact global. C'est étudié un peu partout, pas en France. Le contrôle d'identité, le contrôle aux faciès, c'est un énorme propagateur du racisme. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on contrôle toujours les mêmes, des jeunes racisés, eh bien c'est qu'il y a un problème. Et comme les gens qui votent en général ne sont pas contrôlés, eh ben vous voyez bien, il y a un hiatus entre la réalité sociale et la croyance qui amène les gens, non pas nécessairement à se considérer comme racistes, mais ils produisent une forme de racisme à leur corps défendant involontairement parce que, voilà, le constat, et c'est assez d'ailleurs répandu dans les médias, il y a un problème avec les jeunes des quartiers. Voilà. Il y a un problème, c'est pour ça qu'on les contrôle. Bah, la réalité, je vous l'ai rappelé, c'est que la plupart du temps, ces gamins sont des étudiants, sont des élèves, vont à la boulangerie et ne méritent pas, si tant est qu'on puisse mériter, des contrôles d'identité qui ont les caractéristiques que j'ai également rappelées.
Et la situation de la police française a l'air très spécifique en Europe. On l'a vu il y a une quinzaine de jours dans cette émission avec Sébastien Rocher sur le maintien de l'ordre. La politique du maintien de l'ordre en France est très spéciale. On ne l'a pas réformée comme les autres polices européennes l'ont réformée. Nos voisins européens, ils font quoi? Il y a des solutions? Ils ont pensé, ils ont réfléchi, puisque eux-mêmes ne pratiquent pas ces contrôles d'identité préventifs comme nous le faisons.
Vous y avez fait référence tout à l'heure. Ce que vous avez dit, on peut le traduire comme en France, la police n'est pas un service public. Elle est au service historiquement du roi et de l'exécutif. Non pas, elle ne sert pas, elle ne protège pas les individus, le peuple, on va dire. Et effectivement, ça va être très compliqué de se réformer, mais bien évidemment, vu les faits, la police va être réformée.
Il faut bien comprendre pourquoi. C'est qu'on a une police nationale, oui. et que la police nationale, elle est au service, effectivement, du gouvernement. Avant, c'était de l'ancien régime. C'est comme ça. C'est historiquement comme ça.
C'est historique. Alors, on peut rajouter, effectivement, aussi que l'exécutif, dans notre démocratie, est un peu hypertrophié par rapport au Parlement et à l'autorité, et qu'il mérite une police hypertrophiée. L'exécutif autoritaire à une police autoritaire. Mais effectivement, je pense que les exemples, la réforme, va nous forcer à aller voir ce qui se fait ailleurs. Que ça soit en Grande-Bretagne, dans d'autres pays européens. Je vous dirais, je donnerais juste un chiffre qui nous inspire beaucoup, parce que vous avez la gentillesse de m'inviter, mais on est plusieurs avocats, hein, Félix de Bellois, Lucie Marius, Anaïs Mehéry. On est plusieurs avocats à plaider sur ce qui s'est passé ailleurs. Et ce qui s'est passé ailleurs, c'est notamment à New York, on a su réduire entre 2011 et 2017 de 98% les contrôles d'identité. 98%. On était à pratiquement à 800 000 contrôles, on est passé à 12 000, avec une augmentation, bien évidemment, de la révélation des infractions. Parce que quand vous contrôlez quelqu'un parce que vous avez une suspicion raisonnable, légitime, objective, ben vous avez plus de chances de révéler des infractions. En gros, on a compris à New York que quand on contrôle un noir et un latino de la même façon qu'un blanc, ben on ne contrôle pas beaucoup.
Et on contrôle mieux, d'après ce que
et
vous dites.
Et on contrôle mieux.
Le président parle d'une plateforme où on pourrait dénoncer les discriminations qui ont lieu lors des contrôles d'identité. Ça vous inspire quoi?
D'abord, ça a déjà été fait. C'est 2000, Kodak, c'est le 114. Ça existe. Il faudrait supposer que ça puisse fonctionner. Il faudrait des ressources, mais on s'intéresse à la sanction. Or, vous révolutionnez pas vous réformez pas une culture, une police, sans vous intéresser intrinsèquement justement à sa culture et à ses croyances. Donc, ça implique de la formation. Ça implique de modifier aussi le cadre légal. Vous avez fait référence au contrôle préventif. La loi dit les policiers peuvent contrôler quelle que soit la personne. Totalement déconnecté du comportement de la personne. Ça, il faut que ça soit revu.
Il faut que ce soit supprimé, dites-le carrément.
Vous n'êtes pas le seul,
il y a plein de gens très différents. De tous les bords politiques qui disent que ça devrait être supprimé depuis longtemps.
Oui, les contrôles administratifs devraient être supprimés.
Merci Slim Benachour. On se retrouve dans un instant avec Nathanaël Karmitz, le président des cinémas MK2.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Les cinémas resteront donc fermés. Jean Castex l'a déclaré avant-hier. Leur réouverture prévue initialement pour le 15 décembre a été reculée au mois de janvier. Bonjour Nathanaël Karmitz.
Bonjour.
Vous êtes président des cinémas MK2 qui sont 11 à Paris et 10 en Espagne. Dans quelle situation vous trouvez-vous? Vous étiez en train de remettre vos salles en marche. J'imagine que vous étiez en train de travailler sur un protocole sanitaire drastique. Vous aviez des films prêts à être exploités. Qu'est-ce qu'ils vont devenir et vous, qu'allez-vous devenir?
Bah écoutez, c'est la question qu'on peut se poser, parce que vous venez de préciser que les salles rouvriraient en janvier. En fait, on n'en sait rien. On a une clause de rendez-vous le 7 janvier pour voir dans quelles conditions éventuellement plus tard. Comme vous l'avez dit, tout était prêt. L'ensemble du secteur de la culture était prêt. Les films qui avaient déjà été arrêtés à cause du confinement étaient prêts à reprendre l'affiche. De nouveaux films étaient prêts à prendre l'affiche. Le tout dans un protocole sanitaire très strict. Il faut le rappeler, aucun cluster dans le monde n'a été détecté dans une salle de spectacle ou dans une salle de cinéma. Et aussi, il faut rappeler que ce qu'on a vécu jusque-là, c'est 5 mois de fermeture et 4 mois d'ouverture sous contrainte, avec des jauges réduites à 50%, le masque obligatoire, des couvre-feux. Donc aujourd'hui, alors qu'on est dans un secteur qui a besoin de temps pour se mettre en route, les films, là, ça fait plusieurs semaines qu'ils se préparent, on a sorti des gens du chômage partiel, tous autant que nous sommes, c'est une manière, à 4 jours d'une réouverture, de porter un coup quasi fatal à une partie de cette économie et de ce secteur.
Vous vous sentez sacrifié? Il y a une petite vidéo qui circule en ce moment, où une vidéo contestataire qui réclame l'ouverture des cinémas et qui montre des supermarchés bondés, des centres commerciaux et qui, en comparaison, montre des salles de cinéma respectant les distances et s'indigne de la décision du gouvernement.
Oui, parce qu'en fait, elle est incompréhensible. C'est que c'est un choix politique qui a été fait. On a choisi de privilégier la consommation, les cultes avec l'ouverture des églises et les transports, plutôt que la culture en général, avec des niveaux d'absurdité qui deviennent difficilement acceptables pour l'ensemble du public et l'ensemble des Français. Pourquoi est-ce qu'on peut aller dans une galerie d'art, mais pas dans un musée? Pourquoi est-ce qu'on peut aller se bonder dans des centres commerciaux, mais pas au cinéma, etc., etc. Donc c'est juste qu'à un moment, l'incohérence des décisions les rend inacceptables, d'autant plus qu'elles se prennent pour le secteur culturel de manière incompréhensible, à 4 jours d'une réouverture, etc. Donc, par exemple, on pourrait dire les choses autrement. Plutôt que de donner rendez-vous dans 3 semaines, on pourrait dire, vous rouvrirez comme les restaurants le 20 janvier, on vous dira le 7 si c'est possible. Là, on peut comprendre, on est des gens responsables, et vous ne mettez pas des dizaines de milliers de personnes dans la merde en annonçant les choses de cette manière-là.
C'est différent en Espagne, où vous avez également des cinémas?
Oui, c'est assez différent. Alors là-bas, c'est très différent région par région, mais les salles rouvriront, notamment en Andalousie où nous sommes, le 17 janvier. En Espagne, elles sont ouvertes. Et j'ai un exemple qui est complètement différent. C'est une ville comme Badajoz où nous sommes. Le seul commerce qui est resté ouvert, c'est le cinéma, parce que c'est considéré comme l'endroit sûr et nécessaire à la population.
Effectivement. Alors, au même moment, les plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou Apple TV sortent gagnantes de cette année cauchemardesque. Ce sont elles qui diffusent les films américains prévus pour vos salles. Ça vous fait peur, ça?
En soi, non, parce que on peut espérer que ça soit un épiphénomène et un moment lié à cette épidémie. Après, ce qui est très difficile à comprendre, c'est qu'on les privilégie finalement en prenant ce genre de décision. Et avec un petit discours lancinant qui est de dire finalement la culture, on peut la consommer partout, donc vous êtes gentil de vous taire et de porter solidarité nationale. On l'a fait jusque-là, très calmement et de manière très responsable tous. Là, on est juste dans une situation où on ne peut plus comprendre les décisions qui sont prises parce qu'elles sont incohérentes. Donc oui, ça privilégie les plateformes. Oui, ça nous inquiète pour l'avenir. Oui, le cinéma s'est toujours réinventé dans ce contexte-là. On n'est pas inquiet pour les salles de cinéma et leur existence pour la suite. Mais effectivement, on nous met des bâtons dans les roues de jour en jour.
La France dispose du plus grand nombre d'écrans en Europe, 5900 à peu près, regroupés dans 2046 cinémas. Combien pourraient fermer? Et parmi les cinémas MK2, est-ce que vous pourrez tenir? Et pour combien de temps?
J'aurais été capable de vous répondre de manière très rassurante il y a encore 4 jours. Aujourd'hui, c'est difficile de vous dire. Il y a des aides. On a un pays à ce titre-là où, il faut le dire, on est très aidé. Mais là, ce petit truc en plus fait que je ne peux pas vous garantir que l'ensemble de la chaîne, les distributeurs ou un certain nombre de salles vont pouvoir tenir. En ce qui concerne MK2, on a encore quelques mois devant nous, mais encore une fois, comme on se l'est dit, on est en train de parler du 7 janvier. Si je prends des chiffres, je ne suis pas épidémiologiste, mais quand je regarde le Brésil, le plateau dont on est en train de parler, il a duré 3 mois. Donc nous, on se prépare tous psychologiquement maintenant à se dire que de toute façon, jusqu'à juin, juillet l'année prochaine et jusqu'au vaccin, ça sera comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, chaque semaine va créer des fermetures et va créer des problèmes. Et si ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour un peu plus tard.
quand des salles de cinéma ferment, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il y a eu des études sur le sujet? Je vous pose la question parce que je me souviens de votre père, Marine Karmitz, expliquant la victoire du Front National à Toulon par l'ouverture d'un multiplex en banlieue. Les salles de cinéma du centre-ville avaient fermé et avec elles les cafés, l'animation avait cessé et le Front National avait remporté la mairie 2 ans plus tard. Je n'ai pas vérifié si l'enchaînement des événements qu'il décrivait avait bien eu lieu de cette manière, mais il était certain de son diagnostic et c'est pour cela, disait-il, qu'il voulait que les cinémas MK2 soient en pleine ville. Alors, réponse, est-ce qu'il y a des études là-dessus?
Alors, je ne sais pas s'il y a des études, mais on peut être sûr de 2 choses. Le cinéma, c'est de la lumière dans la ville et c'est l'animation des centres-villes. Un cinéma, ça fait vivre un ensemble d'écosystèmes. Et le cinéma, c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'ouverture au monde, c'est le partage collectif d'une idée du monde. Et donc, la culture, au même titre que l'éducation, quand elle est coupée, favorise l'obscurantisme, favorise les fake news, favorise un ensemble de replis sur soi qui n'est effectivement pas souhaitable. Est-ce que ça amènera le Front National au pouvoir? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas fait pour favoriser l'idée de l'ouverture au monde.
Est-ce que vous pensiez vivre un jour dans un monde où les musées, les théâtres, les cinémas seraient fermés?
Je pense que personne ne l'a imaginé.
Non, personne.
Je pense que c'est inimaginable, d'autant plus quand on est en France et quand on est français. La culture et cette culture présente en bas de chez nous, la culture de proximité, fait partie intégrante de nos vies, au même titre que la gastronomie et cet art de vivre à la française. C'est ces choses-là qu'on nous envie dans le monde entier. Et encore une fois, il y a la situation actuelle et il y a les dégâts qu'on est en train de faire à ces secteurs pour les années à venir. Et c'est à la limite plus ça qui m'inquiète. On arrivera tous d'une manière ou d'une autre à franchir cette crise. Mais par contre, on est en train d'obérer pour la France un atout indispensable à notre rayonnement.
Vous avez ouvert MK2 Curiosity, c'est une plateforme aussi avec 5 films gratuits toutes les semaines. En tout cas, c'était comme ça pendant le premier confinement. Vous avez réouvert là?
Oui, ça fait partie de ces belles choses du confinement. C'était une initiative pour garder la culture dans le quotidien des gens lors du premier confinement. On vient de la relancer. C'est 5 films gratuits, des films un peu...
Vous avez un beau catalogue chez MK2.
C'est un beau catalogue, mais c'est les films qu'on ne retrouve pas sur ces plateformes. On va dire que c'est un peu comme la livraison hebdomadaire du panier bio, mais pour le cerveau.
Il y a Les Mistons de François Truffaut, il y a un film de Wim Wenders, je ne sais plus lequel en ce moment.
The End of Violence, tout à fait.
Et vous avez ce fameux documentaire sur l'élection de John Kennedy à la Maison-Blanche.
Oui, c'est le 3e épisode et c'est le premier, c'est le réalisateur qui s'appelle Robert Drew et toute son équipe qui ont inventé finalement le documentaire où on suit Robert Kennedy.
C'est Robert, pas John, pardon.
Pardon, excusez-moi, c'est moi qui fais une erreur, c'est tout à fait John Kennedy qu'on suit depuis la campagne électorale jusqu'au bureau ovale et c'est le premier vrai documentaire politique de l'histoire de l'histoire du cinéma.
Celui qui avait donné envie à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir le sien et il avait demandé à
Raymond Depardon.
À Raymond Depardon.
Tout à fait.
Merci Nathanaël Karmitz et bonne chance pour les salles de cinéma en général.